1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une dernière émission Le Grand Tout cette année 2024. D'habitude, c'est le dernier vendredi du mois que nous retrouvons Champ Libre A, mais voilà, pas d'émission la semaine prochaine, en tout cas pas de nouvelles émissions. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver dans un instant Michel Audouard, co-directeur du Jardin Moderne. Il se consacre aux activités et pratiques. Il est en co-direction avec Gladys Lebihan qui, elle, s'occupe plutôt des questions administratives. Et c'est lui qui s'est plié à ce jeu d'aller se raconter à partir de documents empruntés à la bibliothèque, à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres. Il va nous parler beaucoup de musique et aussi un peu de cinéma dans quelques instants. Je vous souhaite donc une bonne émission Champs Libres A, saison 2, épisode 4. Vous savez, si vous écoutez Le Grand Tout sur Canal B, le dernier vendredi du mois, on prend le large, pas tant que ça, on va juste dans un ou deux bâtiments à côté de Canal B, pas très très loin, au Champ Libre pour Champ Libre A, saison 2, épisode 4. Aujourd'hui, on reçoit Michel Audouard, co-directeur du Jardin Moderne. Bonjour Michel.
Bonjour.
Qui arrivait en poste en 2023.
C'est ça, septembre 2023. Ouais.
On va peut-être voir avec toi, avant de plonger dans ton histoire de passion pour les arts et la culture, la musique, le cinéma surtout, on va écouter ta sélection choisie à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres. Je remercie encore une fois Clarisse Mérou et puis Antoine Blanchet de la bibliothèque des Champs Libres pour nous avoir accompagnés sur cette émission Champs Libres A. On va peut-être savoir ce qu'il en retourne quand on est co-directeur d'une structure comme le Jardin Moderne à Rennes, une structure qui a de multiples activités et quand en plus on est chargé de les superviser, ces activités-là, ça laisse du temps libre pour écouter de la musique et voir des films encore ?
Ça laisse encore un petit peu de temps libre. Ce qui laisse un petit peu moins de temps libre pour voir des films, c'est d'avoir des enfants. Parce que moi, je regardais beaucoup de films le matin, comme je le dis souvent. Mais ça laisse quand même un petit peu de temps libre. Et puis maintenant, on a la technologie, les voitures avec le temps de trajet, ça aide à écouter beaucoup de musique aussi. Moi, je suis au-dessus de Rennes, donc ça marche pour écouter la musique.
Tu es co-directeur du Jardin Moderne avec ta collègue Gladys depuis ta prise de fonction. Ça se passe bien?
Ah, ça se passe super bien, ouais. On est un duo, j'espère qu'on se complète bien. J'ai l'impression qu'on se complète bien. On n'a pas la même fonction. Moi, je suis activité pratique, elle est administrative et financière, mais ça se passe très très bien, ouais.
Pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds au Jardin Moderne, je serais presque tenté de dire ouh, c'est mal, mais quand même, ils sont peut-être quelques-uns. Ces activités très larges que je disais, elles recouvrent quoi exactement?
Alors nous, on a 5 pôles d'activité principales. On a l'activité de répétition. Je pense que c'est l'activité qui est la plus connue par les musiciens musiciennes du territoire. On a 7 studios de répétition, dont un studio d'enregistrement. On a une activité de concert. On a un club, ce qu'on appelle un club de 250 places dans le jardin, mais on a aussi un café qui peut être transformé en salle de concert, qui fait 350 places, et on a un chapiteau devant qui accueille les concerts au printemps, nos Open Garden. On a une activité de formation, on est centre de formation, organisme de formation, et on accueille les professionnels du secteur pour des formations administratives, techniques et liées à l'artistique aussi. On fait de l'accompagnement des musiciens, des musiciennes, mais aussi des porteurs de projets, des associations pour l'organisation de leurs événements, mais aussi pour d'accompagnement de carrière, de conseils, ce qui était anciennement appelé de la ressource. On fait de l'action culturelle, on a différents projets, égalité hommes-femmes notamment, en mixité choisie, avec le Girls Rock Camp, avec Salut les Iquettes, avec l'école de la Baume, on fait plein de choses là-dedans.
Et parfois des concerts hors les murs, au Champ Libre par exemple.
On a un concert au Champ Libre en janvier, ouais, un partenariat chaque année. On a des concerts aussi dimanche au Tabor, plein de choses sur la ville de Rennes. Et voilà, on est aussi un restaurant qui est ouvert du mardi au vendredi, et il ne faut pas hésiter à venir manger aussi, on a un lieu de vie avant tout.
Alors on pourrait passer des heures à décrypter toutes ces activités-là, on a une présentation globale de ta part Michel, merci beaucoup, on va s'intéresser à toi maintenant tout de même, on reparlera du Jardin Moderne en fin d'émission tout à l'heure pour évoquer un événement à venir bientôt. On reçoit habituellement des artistes, plasticiens, musiciens, musiciennes, photographes. Toi tu as aussi une activité artistique personnelle en fait, et depuis longtemps encore. On parlera peut-être de ça, de comment toi tu as été musicien, comment tu as accompagné des musiciens aussi, mais peut-être revenir à la genèse de ton goût pour la musique, pour les arts en général. C'est quelque chose qui était dans le sang, qui était familial directement.
Bon, on dit souvent que ça vient pas de nulle part. Effectivement, moi, ma maison familiale, elle a toujours été baignée de musique. Mon père, c'était un musicien guitariste, on se le disait un petit peu en préparant cette émission. C'était quelqu'un qui écoutait beaucoup de folk américaine des années 60, 70, 80. Il a beaucoup joué de Bob Dylan, il a beaucoup joué du Neil Young, il jouait dans les bars à Paris dans les années 70. Et ça a toujours beaucoup joué de musique à la maison. Et moi, en tant qu'enfant, avec mon frère et ma sœur, on était tout le temps dans leurs pattes. Donc, ouais. Et beaucoup de vinyles chez moi aussi, beaucoup de films.
Vous écoutiez en famille surtout de la musique américaine ?
Ouais, beaucoup de musique anglo-saxonne. Après, on avait quelques artistes français qui étaient francophones, qui étaient écoutés à la maison, mais c'était beaucoup de musique anglophone.
Tu vas nous parler peut-être de celui qu'on va entendre maintenant, un extrait d'un album live version vinyle. Vous allez sans doute l'entendre parce qu'il a été plusieurs fois écouté, cet album d'un certain Robert Zimmerman, Bob Dylan. Bon, tu nous en reparles juste après ceci. Chance pour le petit Michel Audouard à l'époque de voir le concert dans le Colorado, le concert de Bob Dylan qu'on écoutait à l'instant, parce que déjà en 1976 tu n'étais pas né.
Pas du tout, non.
Et puis en plus, voilà, c'est, je le répète, dans le Colorado qu'il a été fait ce live-là, capté et puis sorti en 1976. Pas sûr que tu l'as entendu ce disque-là non plus quand tu étais enfant.
Non, ça faisait pas partie de la collection de mon père. Moi, Bob Dylan, c'est vraiment lié à mon père. Et par contre, c'était un gros fan. Donc, il y en a beaucoup qui étaient diffusés à la maison aussi. Hein.
Quand on est petit comme ça et qu'on a accès à cette culture-là, on n'a pas forcément besoin d'aller emprunter des disques aux copains ou aller dans les bibliothèques s'inscrire. Mais est-ce que quand même, tu vas chercher ailleurs qu'à la maison des bribes de musique comme ça?
Bah, moi, c'était vraiment dans les années, fin des années 90, tout ça. Fin des années 90, et on se prêtait en fait beaucoup les disques, quoi. C'était beaucoup comme ça que ça se passait. Le CD était à son apogée à ce moment-là et on gravait beaucoup de CD et on se passait vraiment les trucs. Donc à ce moment-là, les médiathèques, elles n'étaient pas faites comme aujourd'hui avec... on pouvait déjà emprunter des CD dans les médiathèques, mais c'était pas un truc, c'était pas une habitude qu'on avait. Donc nous, vraiment, on gravait des CD et puis on se les passait, quoi.
Quand toi, tu es adolescent, Internet est bien présent déjà ou pas?
Ça commence. Moi, j'ai 40 ans, donc moi, Internet est arrivé... Et arrivé à mes 10-11 ans vraiment dans les foyers. Et quand je suis adolescent, ça arrive vraiment. On télécharge des titres, quoi. On a pas encore... mais on est vraiment beaucoup sur le CD. Beaucoup sur les CD après pirates. Hein, à ce moment-là, on grave beaucoup de CD, quoi. Et on se les passe comme ça.
Et toi, en fait, après avoir pas mal écouté de musique, par exemple folk américaine, comme on a pu l'entendre avec Bob Dylan quand tu étais plus jeune, un peu plus tard, tu vas découvrir d'autres musiques aussi?
J'ai eu pas mal, comme souvent les collégiens à l'époque, une période rap où j'écoutais beaucoup de NTM à l'époque. J'écoutais beaucoup des Le Ministère Amer, des choses comme ça, qui nous rajeunit pas du tout, hein, mais c'était vraiment une grosse époque du rap. Et en parallèle, je suis assez vite parti dans le grunge et un peu plus dans le métal, dans le rock un peu plus dur. Et c'est vraiment, ça a été vraiment beaucoup ça aussi. Mais la culture à la maison m'a aussi amené vers les musiques plutôt soul, plutôt noir américaine, des années 60-70 aussi. Donc j'ai écouté beaucoup de Dire Straits aussi. Enfin voilà, j'avais une culture musicale qui était assez large quand même.
Alors on y reviendra hein, sans doute tout à l'heure au métal et au grunge qui explose hein, à la fin des années 1980, début 1990 jusqu'au milieu d'ailleurs. Et puis même un peu de fusion peut-être bien, allez savoir. Bon, on retrouvera ça tout à l'heure, mais là on va du coup aller faire un tour dans la musique noire américaine et entendre un artiste complet, un certain Stevie Wonder. Qu'est-ce qui te plaît le plus chez lui? Le fait qu'il soit vraiment aussi bon compositeur qu'interprète?
Ouais, c'est pareil, c'est quelque chose qui était familial. Là, il y avait des vinyles chez moi et on m'en a toujours beaucoup parlé, encore une fois mon père, on en a toujours beaucoup parlé comme quelqu'un qui savait tout faire et multi-instrumentiste. Et on avait à la maison des vinyles que j'ai encore aujourd'hui, que j'ai récupéré, les deux premiers albums en vinyle que j'ai beaucoup écouté. Alors les titres, je suis assez nul hein, je vais pas forcément vous, je suis pas une encyclopédie de la musique en termes de titres d'albums et de morceaux, mais par contre cette référence, j'ai toujours beaucoup eu et ça m'a amené à écouter du Sam & Dave, du Otis Redding, des gens comme ça, du Aretha Franklin et j'ai beaucoup aimé cette musique là aussi.
Comme on reçoit des invités ici dans Champ Libre A, évidemment, elles ont parfois en tête une liste idéale, et puis c'est pas forcément ce qu'on trouve toujours à la bibliothèque des Champs Libres, ce qui prouve que c'est une bibliothèque vivante et que les livres et les documents sont empruntés. Là, tu avais apporté Music of My Mind de Stevie Wonder en version vinyle. Ben, c'est un extrait de Hotter Than July qu'on va écouter maintenant, et un fameux titre que vous avez sans doute déjà entendu, Master Blaster Jammin. Thank you.
another were fine, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, nothing didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You bet. Across 110th Street, you can find it all. Talk to you about right now. Hey brother, there's a better way out. Shorting that coat, shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Catch a trick on the street. Ooh, baby. Across 110th Street, you can find it all.
Vous avez entendu Stevie Wonder tout à l'heure, une sélection de Michel Audouard, notre invité dans l'épisode 4 de la saison 2 de Champ Libre A, aujourd'hui sur Canal B, enchaîné à un titre incroyable de Bobby Womack, à l'origine la BO d'un film des années 1970, et on le sait bien, le réalisateur dont tu vas nous parler maintenant a beaucoup exploré et a écouté tout ce qui est sorti et a vu tout ce qui est sorti dans le passé pour s'en faire ses influences principales et pour les remixer, les malaxer. Là, on écoutait un extrait donc de la BO de Across 110th Street à l'origine, dans les années 70, et aussi le générique d'intro du film de Quentin Tarantino, Jackie Brown. Et là, comment tu le prends en pleine face, son cinéma, à lui ?
Découvert assez jeune aussi, avec le film qui restera mon film préféré de Tarantino, qui s'appelle Réservoir Dog. Et ça m'a vraiment fait aimer le cinéma indépendant américain et aussi tout ce que représentent les films de Tarantino, à savoir énormément de références, énormément de millième degré. En même temps, avec c'est du grand cinéma d'action à des moments, c'est du grand cinéma de divertissement aussi, et un dialoguiste incroyable. C'est vraiment dans Réservoir Dogs, il y a une fameuse scène où ça tourne autour d'une table et où on voit tous les protagonistes, alors tous les acteurs un peu fétiches de Tarantino de l'époque, Steve Buscemi et les autres. Et ce dialogue où la caméra elle est en plan séquence autour de la table, c'est une scène incroyable. Et ça, ça a vraiment, ça, la scène du pourboire. Enfin, c'est pour ceux qui connaissent ce film, ça leur parlera. C'est vraiment des Tarantino. Après, j'ai enchaîné avec Pulp Fiction, j'ai enchaîné avec tous les autres films qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et c'est vraiment un réalisateur qui est hyper important dans ma connaissance du cinéma. Et le fait, il m'a certainement fait beaucoup aller dans des salles de cinéma. Ouais, ça c'est sûr.
Est-ce qu'à un moment, la question s'est posée quand tu as commencé à te rendre compte que professionnellement, la musique aurait un rôle dans ta vie ? Est-ce que le choix aurait pu se faire entre la musique ou le cinéma ?
Non, la question s'est jamais vraiment posée. Elle aurait pu se poser à la fin de mes études, au moment où on doit vraiment un peu se spécialiser. Moi, j'aimais bien la production, organiser des festivals et faire de la production festival. J'aurais très bien pu aller en fonction des rencontres vers de la production de cinéma et de la régie de plateaux de tournage, et ça m'aurait vraiment beaucoup plu. Mais ce qui est sûr, c'est que ça aurait été l'un ou l'autre. Après, la musique avait quand même une place un peu plus importante.
Le voyage, est-ce qu'il a une part aussi quand on est adolescent comme ça, avant de se plonger dans la vie active, avant ou juste après les études, on fait parfois des voyages. Ça t'est arrivé à toi ?
Ouais, j'en ai fait pas mal. Après, un de mes plus marquants, c'est quand je suis allé en Pologne. Ma maman est polonaise et du coup, je suis parti tout seul en Pologne pendant un mois. On le disait un petit peu en préparant cette émission, moi j'adore tout ce qui est dans, alors au lien au cinéma aussi, c'est tout ce qui est road movie, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai beaucoup regardé de road movie, mais ce voyage là effectivement, c'est, j'avais 20 ans, je me débrouillais un petit peu tout seul, c'était un peu premier voyage où tu te débrouilles un peu tout seul. Alors t'as, bien sûr, on m'envoie pas, hein. Je suis pas parti à l'inconnu totalement, j'ai de la famille en Pologne, j'avais des pieds à terre un peu partout, mais par contre un premier voyage tout seul, c'est toujours un peu impressionnant, quoi.
Adiós, muchacho, compañero de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Ay, mira, mira, mira.
El plan: recorrer 8.000 kilómetros en 4 meses. El método: la improvisación.
El cuerpo enfermo no resiste más. Hay que prevenir las cosas de la vida.
La, la, la. Objetivo: explorar el continente latinoamericano que solo conocemos por los libros. Equipo: La Poderosa. Una Norton 500 del 39 que está rota y gotea. El piloto, Alberto Granado. Amigo panzón de 29 años y bioquímico. Vagabundo científico declarado. El sueño del piloto: coronar el viaje con su 30 aniversario. Copiloto: ese vendría a ser yo, Ernesto Guevara de la Cerda.
Michel Audouard, notre invité dans Champ Libre, aujourd'hui n'est pas allé en Pologne à moto, non, je pense pas. Mais là, on entendait des carnets de voyage à motocyclette. Carnet de motocyclette, c'est ça le titre originel de ce film dont on écoutait la bande-annonce à l'instant. Et puis qui est même carrément le tout début du film. Donc on était avec le personnage principal. C'était quoi ce film et qu'est-ce qu'il t'a procuré comme plaisir quand tu l'as découvert ?
Alors, c'est un film de 2004 qui est en fait la jeunesse, un voyage en moto de la jeunesse de Che Guevara, et qui était interprété dans ce film-là par Gael Garcia Bernal. Et je sais que c'était un film des années 2000, et c'est un des road movies qui m'a un peu marqué dans cette période de ma vie, où en 2004, c'est ça, j'ai 20 ans, je suis beaucoup chez les potes, on est tous étudiants, on a un peu de temps pour regarder des films. Et je passais beaucoup, beaucoup de temps à regarder des films à ce moment-là, et beaucoup de cinéma indépendant américain ou de cinéma indépendant tout court, parce que là, c'est pas un film américain, c'est un film d'Amérique du Sud avec chiliens, américains, mexicains, enfin, voire argentins, voilà. Et je me souviens que à ce moment-là, on avait une coloc, et on était plusieurs dans cette coloc à être fans de de cinéma indépendant et on regardait beaucoup de films.
On va pouvoir peut-être évoquer ce groupe, un groupe important pour pas mal de musiciens sans doute, un groupe qui a expérimenté et même après le départ de Syd Barrett, il a continué à expérimenter. Un groupe qui a été très important pour toi, Pink Floyd.
Ouais, mais je suis arrivé un peu tard à Pink Floyd. C'est-à-dire que c'était pas forcément un groupe qui était beaucoup écouté chez moi. Mon père trouvait ça assez chiant d'ailleurs. Et en fait, ça c'est pareil, c'est à force d'être avec des copains, copines, musiciens, musiciennes qui aimaient différentes choses parce que en fait, il y a la famille, mais il y a aussi après les amis qui rentrent et on était quand même tous assez fans de rock indépendant. Bon, après Pink Floyd, c'est un mastodonte, hein, c'est quand même un très gros groupe, mais c'est pas hyper facile à écouter tout le temps. Pour moi, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui aiment pas Pink Floyd et ceux qui aiment Pink Floyd. Et c'est pareil avec plein de groupes. Et je faisais partie de ceux qui ne connaissaient pas vraiment Pink Floyd. Et à un moment, j'ai aimé Pink Floyd et j'ai vraiment adoré Pink Floyd. Et j'ai tout écouté. Peut-être, il y a peut-être un ou deux albums qui me parlent moins quand c'est vraiment, vraiment très... peut-être Maguma qui est assez dur à écouter. Mais tout le reste, c'est peut-être aussi les périodes les plus... début des années 90 qui me parle un peu moins de cette période là mais voilà, les albums des années 70, années 80, j'aime beaucoup. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government?
she's dangerous. To me. Check out all your girlfriends for you. Mama won't let anyone dirty get through. Mama's gonna wait up until you get in. Mama will always find out where you've been. Mama's gonna keep baby healthy and clean. Mother didn't need to be so high.
Vous aurez reconnu sans doute Mother par Pink Floyd à l'instant. On continue à parler avec Michel Audouard de sa formation culturelle. Comment on peut arriver aujourd'hui à être co-directeur d'une structure comme le Jardin Moderne. Il faut pas juste avoir écouté un peu de Bob Dylan et de Pink Floyd quand on était jeune. Il faut aussi avoir sans doute mouillé le maillot en tant que musicien et puis avoir fureté un petit peu dans tous les aspects de du spectacle musical. Aussi bien la salle de musique actuelle, le grand festival, la production. Mais avant de parler de tout ça, le jeu. Quand est-ce que toi tu te dis tiens bah je vais m'acheter une batterie ou je vais demander aux parents de m'offrir une batterie et je vais devenir batteur. Est-ce que c'est la première fois que tu es musicien quand tu deviens batteur ou tu avais déjà commencé d'autres instruments auparavant?
J'avais commencé un peu de guitare, après je m'y suis remis, mais la batterie, ouais, c'était vraiment à un moment, j'avais 18 ans, j'ai dit, ah ben, tiens, je vais m'acheter une batterie. Et puis, elle était dans le garage chez mes parents, puis j'ai commencé à jouer de la batterie, j'ai pris un an de cours, et puis après, c'était parti, en fait. Assez vite, c'est pareil, le lycée, puis début d'université, moi, j'étais entouré que de musiciens et de musiciennes, qui sont notamment aujourd'hui des musiciens pros pour la plupart de mes amis, enfin, pour quelques-uns de mes amis, pardon. On a monté 1000 groupes les uns avec les autres, les formations qui s'échangeaient. On était une bande comme ça où on était 15-20 à être musicien-musicienne et on a monté, je sais pas, dans ces années-là, en 10 ans, on a dû monter, je sais pas, je dirais au moins 10 groupes, quoi, entre les uns les autres. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Et chez mes parents, c'était un point de rencontre, en fait. Il y avait un garage où tous les groupes, ils passaient, ils jouaient, ils répétaient à cet endroit-là. On n'avait pas vraiment de salle de répète comme au Jardin Moderne. Il y en a une à Valence, la ville où j'ai grandi. Mais par contre, on n'était pas vraiment équipé comme ça. Donc, on avait le garage de mes parents, quoi.
Donc ça, c'était dans la Drôme, jusqu'à tes 18 ans, peut-être?
Un peu plus, ouais. Peu plus. Jusqu'à mes 23, 24, ouais.
Et ces groupes-là, bon, certains sont restés des musiciens professionnels que tu as croisés. Est-ce que vous avez fait des enregistrements avec ces divers groupes? Toi, tu en as encore quelques-uns des enregistrements des groupes dans lesquels tu as participé?
Oui, il y a des trucs obscurs qui traînent sur Internet, pas trop sur Spotify parce que je crois qu'on les a jamais mis vraiment dessus. Mais ouais, j'ai un groupe de grunge à l'époque qui s'est arrêté il y a pas si longtemps que ça, en 2014, ça fait déjà 10 ans, hein, mais un groupe de grunge qui jouait, on va dire, en Rhône-Alpes, qui s'appelait Dissident de Pachydère, mais après j'ai fait du métal aussi à Nantes, sur d'autres types de formations, voilà.
Jamais programmé dans des très très gros festivals, très gros événements?
On a fait quelques belles salles, mais on a eu quelques jolies expériences, mais ça restait quand même assez rare, hein, ces musiciens amateurs quand même.
Donc pas la possibilité pour ces groupes-là dans lesquels tu jouais de faire la première partie, par exemple d'Alice in Chains.
Non,
vraiment pas.
Non.
Alors ça, c'est l'explosion grunge hein, que tu te prends en pleine face, comme le cinéma sans doute de Quentin Tarantino. L'époque est différente de celle d'aujourd'hui, parce que même si Internet est bien présent, on n'accède pas aussi rapidement, aussi facilement à un disque qui est sorti à Seattle il y a 3 semaines, 1 mois, et je pense à Seattle parce qu'évidemment, c'est la ville d'explosion. Explosion du grunge avec des groupes comme Nirvana, Mudhoney ou Alice in Chains d'ailleurs, qui viennent de là aussi.
Oui, tout à fait. Ouais.
Comment tu découvres tout ça, toi, et qu'est-ce que ça te fait d'abord après avoir écouté Bob Dylan, Stevie Wonder, Pink Floyd?
Eh ben, c'est une rencontre d'un pote qui était un peu le mélomane de notre bande, et lui il a amené des trucs comme ça, et il a amené le grunge beaucoup, et Alice in Chains c'est pas un des groupes les plus connus de grunge, enfin c'est pas Pearl Jam ou c'est pas Nirvana quoi. Dans le commun du grunge, on va surtout citer ces deux groupes là, et Alice in Chains, c'est, même si c'est très connu, c'est quand même un groupe qui est un peu en deçà en termes de notoriété. Et nous à l'époque on connaît pas du tout, là on est en 2000, entre 2000 et 2004. Et voilà, c'est des potes qui m'amènent ça, et puis c'est pareil, ça a été une grosse découverte pour moi en termes de son, parce qu'il y a une grosse prise de risque dans Alice in Chains, notamment au niveau des voix. C'est du grunge, mais c'est en même temps un peu du métal. C'est assez hybride comme style aussi. Il y a un son Alice in Chains, il y a un chant Alice in Chains, il y a une histoire aussi, il y a un storytelling avec le grunge de cette époque-là, avec les décès, la drogue, et du coup, tout ça, ça fait partie de du rock et de ce qui m'a fait aussi aimer le rock.
Nirvana ne sont pas les seuls à avoir sorti un album unplugged. Alice in Chains, on les écoute avec No Excuse.
Oh,
Okay, now we're gonna break to an LL Cool J video, so.
Oh, in the film. There's a country soul that reads postal bills. There's a strike in the line of cops outside of the mill. There's a right to obey and a right to kill. There's a mass without roofs. There's a prison to fill. There's a country soul that reads postal bills. There's a strike in the line of cops outside of the mill. There's a right to obey and there's the right to kill.
Deux titres enchaînés dans Champ Libre à Michel Audouard, c'est le quatrième épisode de la saison 2, toujours des disques et des documents trouvés du côté de l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres, un groupe qu'on connaît bien et qui n'existe plus vraiment, j'ai l'impression aujourd'hui, Rage Against the Machine, on les écoutait à l'instant. Est-ce que, Michel, les groupes dans lesquels tu as joué, vous aviez le rêve secret ou complètement avoué, en fait, de devenir aussi célèbre que Zach de la Rocca et ses potes?
Jamais de la vie. Non, non, vraiment pas. C'était... En plus, on apprend assez vite quand on avance dans la musique, que ce soit en tant que musicien ou que ce soit en tant qu'acteur culturel, que en fait la notoriété c'est pas forcément le but à atteindre. On peut parler aussi de l'exception culturelle française qui j'espère restera encore, et où en France on peut très bien vivre en tant que musicien pro, musicienne pro, sans avoir forcément une grosse notoriété. Donc non, ça a jamais été un but, mais par contre effectivement. Ce groupe-là, Rage Against the Machine, et surtout cet album-là dont est juste le morceau qu'on vient d'écouter, Battle of Los Angeles, c'est peut-être un album qui est un petit peu moins cité. On cite toujours beaucoup les deux premiers, mais c'est un groupe qui a fait assez peu d'albums. Finalement, il y en a eu 4. Après, ils reviennent régulièrement pour faire une tournée. Je les ai vus en 2009 à Bercy, et ça faisait 10 ans que j'attendais ça, et ça a été un des meilleurs concerts de ma vie. Ouais.
Peut-être pas devenir aussi célèbre que des musiciens comme ceux de Pearl Jam ou Rage Against the Machine, mais le fait d'aller travailler ensuite dans le monde de la musique, de la culture, des salles de musique actuelles, des festivals, ça te permet de les côtoyer aussi, ces groupes-là, finalement, de les rencontrer, de les accueillir. Mais j'imagine qu'on accueille aussi bien quand on est dans une petite SMAC du Vaucluse, un groupe amateur qui va faire une première partie, que si on devait accueillir Alice in Chains.
Ouais, l'accueil, ça a toujours été hyper important dans mon métier. J'étais à des postes en scène de musique actuelle. J'étais à des postes où vraiment j'étais en lien direct sur l'accueil des artistes. Et oui, c'est hyper important. J'ai beaucoup travaillé en club, ce qu'on appelle club, c'est-à-dire... alors maintenant, il y a des clubs, ils appellent club des salles de 800 places. Pour moi, c'est pas ça un club, c'est une salle de 200, 300, 400 places éventuellement. Et effectivement, on accueille des groupes de la scène française en général, ou des groupes en tournée étrangers, mais qui n'ont pas non plus une notoriété qui est énorme, mais c'est pas grave, en fait, c'est pas le sujet. Et du coup, l'accueil, ça a toujours été primordial. Ouais.
Quand on a été programmateur d'une salle de musique actuelle et qu'on travaille en tant que co-directeur d'une salle, c'est pas une SMAC, le Jardin Moderne.
Non.
Ça n'a pas ce label-là, mais ça a les fonctions tout à fait proches, voire équivalentes.
On fait pratiquement toutes les missions de SMAC.
À ce que fait une SMAC, mais tu es au contact quotidien avec des jeunes formations, aussi bien parce qu'elles vont répéter, parce qu'elles vont faire un concert sur la petite scène du Café Culturel ou dans la salle de concert du Jardin Moderne, donc elles viennent manger au restaurant du Jardin Moderne tout simplement, ce qui fait que c'est une continuité pour toi, ça, évidemment, d'avoir été programmateur et organiser des concerts dans des salles de musique actuelles, et puis être au Jardin Moderne aujourd'hui.
Ouais, moi j'ai toujours été hyper attaché à la pratique amateur. J'ai toujours eu un espèce de problème sémantique. Est-ce qu'on est amateur? Est-ce qu'on est semi-pro? Est-ce qu'on est pro? Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, tout ça. C'est vraiment la notion de pratique, c'est-à-dire que n'importe qui a besoin de bonnes conditions pour répéter, a besoin de bonnes conditions pour créer, éventuellement des temps de résidence. Moi, en tant que musicien amateur, c'est pas pour ça que j'avais pas... Je savais très bien que j'allais pas être musicien pro, même si je travaillais dans le domaine culturel. Par contre... c'est pas pour ça que j'avais pas envie de répéter dans de bonnes conditions et d'avoir des temps de création et peut-être des temps où on me propose d'être en répétition scénique, en filage ou en résidence. Donc je trouve qu'il faut faire attention à bien considérer toutes les pratiques et en tout cas l'entrée amateur, semi-pro, professionnel, elle m'implique assez peu. C'est vraiment l'envie du groupe et les envies qui m'intéressent, quoi.
On est dans une ville, Rennes, évidemment, où le tissu est très serré, hein, finalement, entre les cafés-concerts, les salles de répète, les salles de musique actuelle et les gros festivals. Tout ça fait qu'il y a un écosystème assez vivant, évidemment, ici. Est-ce que c'est quelque chose d'un peu inespéré ou en tout cas assez rare, finalement, sur le tissu français, où on n'est pas plus mal loti à Strasbourg, à Valence, à Lyon qu'à Rennes?
Ah bah non, à Rennes c'est quand même particulier. Enfin, Rennes ou que ce soit l'Ouest en général, mais d'ailleurs il y a des villes qui ont qui sortent des promotions de musiciens, musiciennes et de groupes assez impressionnantes. Moi j'ai été dans pas mal d'endroits en France du coup, et on n'avait pas forcément les mêmes vivis ailleurs. Je prends des villes comme Rennes, comme Nantes, comme Caen, comme Tours, Bordeaux. Il y a plein de villes en France, Lyon aussi évidemment, mais il y a plein de villes en France alors de temps en temps c'est assez rigolo, faut regarder les esthétiques, faut regarder les effets de mode, faut regarder tout ça. Mais Rennes, j'ai accueilli beaucoup de groupes rennais en 15 ans dans différentes salles. Ça veut bien dire aussi qu'il y a toujours eu une scène rennaise assez avant-gardiste et qui se diffusait très bien au national, quoi.
Si nous avons parlé de groupes extrêmement connus à l'instant, internationalement, j'entends évidemment, on va parler d'un groupe qui est très connu aussi, mais plutôt en France quand même, un peu en Europe sans doute, pas beaucoup plus loin, mais ils sont plein de talents, les Rennais de Totoro, avec des lives explosifs, 10 ans d'activité, un retour aux affaires pour un concert des 10 ans
il y a quelques semaines,
qui a été absolument incroyable. Les gens étaient venus pour eux pratiquement, alors qu'il y avait des groupes internationaux sur cette affiche à l'Antipode il y a quelques semaines. Totoro, c'est un groupe que toi tu as pu voir et qui était proche peut-être de l'esthétique ou pas, mais de l'environnement musical régional dans lequel tu travaillais.
Ouais, en fait, c'est un groupe que j'ai découvert à mon arrivée à Nantes, parce que comme je le disais, je viens plutôt de Rhône-Alpes au départ. Et quand j'ai pris un poste de booker dans une structure qui s'appelle LMP Music à Saint-Nazaire, c'était au moment de la sortie d'Omelone, l'album avant Come to Mexico, l'album que j'ai choisi là. Assez vite, Totoro est arrivé dans mes oreilles par réseau et puis là pour le coup par internet. J'étais beaucoup post-rock à ce moment-là et mat-rock, j'écoutais pas mal aussi de groupes. Et c'est un groupe qui m'a beaucoup parlé. Ça m'a aussi permis de rentrer un petit peu dans la musique indépendante de cette scène rennaise. Après, j'ai travaillé avec un groupe angevin, j'ai travaillé avec des groupes nantais, et du coup, d'avoir aussi un lien à qu'est-ce que c'était le rock, en début des années 2010, à cet endroit-là en France, quoi.
Vous entendiez Totoro à l'instant sur Canal B dans Son Libre à Michel Audouard. On arrive à la dernière partie de cette discussion autour de tes goûts intimes en termes de musique, de cinéma. Toujours avec ces documents empruntés à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres. On arrive à une fin un peu mélancolique hein, dans ce qui va arriver tout de suite. C'est pas ta nature forcément, la mélancolie. On va évoquer aussi un événement du Jardin Moderne. Je vous rappelle que tu en es le co-directeur avec Gladys et que on va pouvoir assister bientôt à une soirée contrefaçon. Ça va être la 11e. Avant de parler de ça, peut-être évoquons le cinéma de cette américaine qui elle aussi est née entourée par ce qui allait devenir sa profession ensuite.
Ah bah oui, c'était une prédestination. Sofia Coppola, moi j'ai beaucoup regardé ses films. Au deuxième étage, je suis tombé sur Virgin Suicide et c'est vrai que c'est un film que j'ai pas vu mille fois, mais que j'ai vu quelques fois et ça m'a surtout rappelé le cinéma de Sofia Coppola que j'ai beaucoup regardé à un moment et qui, toujours pareil, on en a déjà parlé en début d'émission, qui me ramène un petit peu au cinéma indépendant que je regardais à ce moment-là avec de très belles BO aussi. Hein, on va parler de musique derrière, mais ça fait partie de mes goûts cinéma. Ouais.
R, c'est un groupe que tu as pu écouter, toi ?
Oui, un petit peu, oui. Oui. Un petit peu.
Mais c'est pas un groupe qui t'a forcément influencé dans ta pratique
musicale. Non, après sur tout ce qui est musique électronique un peu plus chill, comme on pourrait dire, un peu plus calme, ouais, ça fait partie des choses que j'ai pu écouter un petit peu.
C'est avec eux qu'on va se quitter dans un instant, et le thème du film, High School Lover, mais avant de terminer cette discussion avec Michel Audouard, eh bien, parlez de ce qui vous attend du côté du Jardin Moderne le 30 janvier prochain. Vous avez peut-être déjà participé à des soirées contrefaçon, soit en tant que musicien, soit en tant que spectateur, spectatrice. Qu'est-ce que c'est que contrefaçon ?
Eh ben, on choisit un thème et on le propose du coup aux musiciens, musiciennes qui fréquentent le jardin, qui viennent répéter en général. Et du coup, après, ils construisent, ils répètent une playlist sur ce thème-là, ils s'inscrivent et du coup, après, ils font un concert durant la soirée.
Et c'est uniquement composé de reprises, en fait.
Et c'est uniquement composé de reprises. Et l'idée, c'est que ce soit un petit peu décalé, un peu cool, un peu fun. Cette année, la thématique, c'est 1984.
Ça me fait bien plaisir cette année-là, puisque c'est l'année de création de Canal B. C'est aussi l'excellent roman de George Orwell. Mais bon, t'as des titres comme ça en tête, de morceaux que pourraient peut-être reprendre les musiciens, musiciennes en 1984. Qu'est-ce qui est sorti ?
Ouais, je crois qu'il y a du Prince qui doit traîner par là. J'ai plus tout en tête, mais il y a peut-être Prince, Michael Jackson, il doit y avoir des choses là-dedans. C'est l'année de ma naissance. Donc moi, j'aime beaucoup cette année aussi. Mais je crois que c'est assez riche en termes de musique.
Et il y a une liste conseillée aux musiciens, musiciennes, où ils viennent avec leurs propres morceaux choisis par eux-mêmes?
Non, ils fouillent, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, la seule chose sur laquelle on donne une petite directive, c'est d'essayer d'avoir un peu de mixité et d'équilibre chez les artistes masculins et féminins dans la playlist, toujours histoire de mettre en avant les artistes féminines.
Bon, j'aurais bien encouragé nos auditeurs, nos auditrices à s'inscrire, mais les candidatures sont fermées depuis le 1er décembre. Vous irez, et j'espère que Canal B sera présente aussi lors du contrefaçon numéro 11, 1984, le 31 janvier, parce qu'évidemment, ça rappellera peut-être des souvenirs aux plus anciens, anciennes animatrices, animateurs de Canal B. Allez savoir, on se quitte ici. Merci Michel d'être venu dans Champ Libre A et d'avoir été le quatrième invité de la saison 2.
Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir.
Et puis on retrouvera bien sûr prochainement, sans doute, un hors les murs du Jardin Moderne au Champ Libre.
Oui, en Champ Libre en janvier, c'est Cercle qui sera avec nous.
Merci Michel Audouard, co-directeur du Jardin Moderne, pour ce Chant Libre A, saison 2, épisode 4. Il partage la direction du Jardin Moderne avec Gladys Le Bihan. Merci aussi à nouveau à Clarisse Méroure et Antoine Blanchet des Chants Libres pour cet accompagnement qu'ils nous accordent tous les mois pour ce supplément de l'émission Le Grand Tout. Nous, on se retrouvera le lundi 6 janvier pour retrouver nos habitudes de nouveautés musicales, d'infoconcerts, d'infocultures et puis aussi de découvertes des radios Ferrarock. Mais du 23 décembre au 3 janvier, vous retrouverez à 16h30 les rediffusions de la saison 1 de Chant Libre A. Et c'est ainsi que vous retrouverez la chorégraphe Mathilde Dinard, les photographes Lise Godert et Estelle Chaigne, les musiciennes Mathilde Leja et Pénélope Antenna, sans oublier les musiciens Héron Sandré, DJ Martin, le directeur de l'opéra Mathieu Ritzler, et puis les auteurs de romans Antoine Filias et d'illustrations Valérian Henry. Voilà pour le programme de ces deux semaines sans émission Le Grand Tout. On se retrouve donc le 6 janvier. Bonne fête, la santé, tout ça, et puis la fin de la guerre. Allez, à bientôt. Ciao, bonnes vacances et bonne fête.